Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable.
Votre patron de Xenoterra, il n'existe plus avec l'ISF. Parce que le jour où il réussit, il s'est carapaté. Heureusement qu'on a supprimé cette aberration de taxer la réussite.
Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole.
Baisser le coût du capital, permettre plus d'investissements productifs, relancer l'attractivité de la France et de ses investissements, c'est l'agenda que nous avons depuis 2017.
Moi, je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire « il y a des gens qui réussissent, taxons-les, nous nous porterons mieux ».
Alors, il dort le gros con ? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
TF1, France 2, France 3, Canal+, La 5, M6, C8, W9, TMC, BFM TV, CNews, LCI, France Info, France Inter, France Culture, Europe 1, RTL, RMC, Le Parisien, Le Figaro, Les Échos, Le Monde, Libération, Le Progrès, La Montagne, Ouest France, L'Est Républicain, La Voix du Nord, Le Courrier Picard, La Montagne, La Dépêche du Midi, Sud-Ouest, Le Télégramme, La Provence, Nice Matin, Var Matin, Corse Matin. La liste des médias pro-réforme des retraites en France est tellement longue qu'un chapeau n'y suffirait pas. À longueur de journée, le message est toujours le même. Il faudra travailler plus longtemps et plus vieux pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les journalistes à la botte du pouvoir et de Macron n'ont que ces mots à la bouche. La place laissée aux opposants est ridicule. Ou alors, ces derniers sont jugés sous l'autel d'un ultralibéralisme économique. Ils sont accusés de preneurs d'otages, de bordéliser le pays, de fausses informations, de pénaliser les Français. La France est-elle encore une démocratie lorsque ses médias sont entre les mains du pouvoir et de 8 milliardaires ? La France est-elle encore une démocratie lorsque le président de la République est élu avec seulement 38% des inscrits ? La France est-elle une démocratie lorsque l'écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus importante ? Les médias dominants nous en donnent une bien triste image. Au terminus des prétentieux, 1047e mauvaise nouvelle ce soir. Je me demande bien pourquoi il n'y a que sur nos ondes que l'on parle d'éducation aux médias. Vous auriez l'impression de vous occuper du monde. Vous auriez l'impression de vous couper du monde en boycottant les soi-disant grands médias. Sur les 90.0 de Radio B, c'est tous les jours Wikipédia. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15 ce soir pour une émission musicale et poétique. L'un ne va pas sans l'autre, vous me répondrez. À l'écoute des ondes des autres radios, permettez-moi d'en douter. Ce soir, nous repartirons dans le monde de la poésie anglo-saxonne. Comme nous, vous n'étiez pas des fans inconditionnels de William Blake, Emily Dickinson et de William Butler Yeats. Et puis, avec le temps, la mise en musique de certains de leurs poèmes par l'invité de ce soir, à travers son projet Vesperland, nous a fait découvrir, apprécier et aimer leurs mots. Même en anglais, ils sonnent justes, ils sonnent beaux. Ce soir, nous nous rapprochons un peu plus de ces poètes, puisque nous nous rendrons aux États-Unis et plus particulièrement dans la première partie du XXe siècle, avec Edwin Arlington Robinson. Nous irons à la rencontre d'un personnage haut en couleur, encore un qui n'a pas toujours eu une vie facile, y compris avec les femmes, et l'un des poètes majeurs de son temps. Notre invité d'un soir a su trouver les notes justes pour que les mots trouvent leur sens et surtout nous permettent de vivre en musique une période pas forcément marrante du monde de l'époque, hein, entre crise économique et révolution industrielle et l'arrivée d'un libéralisme économique qui a décidément bien des adeptes encore aujourd'hui. Mais trêve de bavardage, il est temps de retrouver dans les studios de Radio B l'auteur du projet Indie Folk Vesperland, l'artiste dromois de cœur et lyonnais...
Et quel adoua d'adoption.
Et quel adoua d'adoption, désormais. Il est quand même été longtemps lyonnais d'adoption.
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est vrai. Mickaël Cointepas. Mickaël, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Antonio.
Salut.
Alors, à force de chanter et mettre en musique les poèmes des autres, ça ne donne pas envie d'écrire et de chanter ses propres poèmes, ses propres chansons?
Absolument, ça donne envie d'écrire des chansons. Et le fait de côtoyer des chanteurs, ouais, ça, c'est quelque chose d'assez inspirant et d'assez, comment dire, ça donne envie, quoi, tout simplement.
Ça donne envie, ouais. Bon, bah, donc la réponse est oui. Ça donne envie, voilà. Bien. Allez, tu seras avec nous jusqu'à 18h15 et tu nous présenteras le nouvel album de ton projet Vesperland, Exit, et des poèmes de l'américain Edwin Arlington Robinson, mis en musique et sorti le 3 mai 2022.
Absolument.
On te retrouvera vers les 18h20-25 pour Au Terminus des Prétentieux, la suite, avec quelques chansons en direct et tu seras accompagné par ta guitare, enfin par tes guitares.
Oui, c'est ça.
Enfin, pas en même temps. Hein. Non, peut-être, t'as que deux mains.
Absolument. Ouais.
À tes côtés, je ne te présente plus mon co-animateur. Parfois, il me surprend.
Toi aussi.
Oui. Ouais, car lui aussi, il a le tact pour écrire.
Oh, bravo. Hein.
Suite à sa rencontre avec un certain, à ton avis...
Pardon, j'étais pas très concentré.
Suite à sa rencontre avec un certain... C'est une personne qu'il a rencontré.
Je vois pas bien où tu veux m'emmener.
Tu vas vite comprendre. Alors, moi, je dirais Richard Corey.
Voilà, très bien.
Richard Corey. Ah oui, bien sûr, c'est bien. Voilà.
Donc, suite à sa rencontre avec un certain Richard Corey, il a entrepris d'écrire un roman. Eh oui, Tonio. Donc, il s'est inspiré pour ça de la novlangue d'Orwell. Hein, le mini-vers, le ministère de la vérité, hein, se trouve dans une maison.
Sur la colline.
Sur la colline, bien sûr. Hein. Donc un certain Chevy en est sorti. Hein, au-dessus de la porte, il est écrit... je t'ai aidé là. Il en est sorti.
Exit.
Exit, bien, très bien.
Pardon.
Ouais, bah oui. Hein. Il prend alors son casque de pilote, Tonio, hein, et entreprend de faire le tour du monde.
The world.
Bah oui, hein, donc la nuit d'avant.
The Night Before, c'est un poème de...
c'est un morceau d'avant peut-être, non ? La nuit d'avant. Mmh. Donc, il s'était arrêté au bord d'un torrent.
Mmh. Okay.
Il avait croisé des enfants et l'homme contre le ciel, un certain Captain Craig.
Oui, c'est des poèmes, tout ça. C'est...
Ouais. Donc, sa quête du Graal, celle du roi...
Arthur ?
Oui, là, même Tonio aurait pu trouver.
Ah, je suis désolé, j'ai pas du tout le truc.
T'es perdu là. Donc, ça quête du Graal.
J'étais pas du tout connecté là-dessus, j'étais pas prêt mentalement. Là.
Ah bah, personne n'est prêt. Ah
bah, personne n'est prêt.
Le mauvais client, c'est ça.
Mauvais client. Donc, sa quête du Graal, donc celle du roi Arthur, l'a visiblement inspiré. Chronométreur dans le métro.
Absolument, arpenteur du métro.
Voilà, donc les aiguilles ont fini par s'arrêter. Ouais. Drôle d'histoire pour de drôles de rencontres. Mm-hmm. C'est tout la traduction d'anglais en français, là. Donc, même moi, je ne me rappelle plus. Hein. Donc, après coup, il se demande s'il n'aurait pas mieux fait de renoncer à son projet. Décrocha-t-il un jour le prix
Pulitzer.
Pulitzer.
Absolument.
Tonio, bonsoir. Bah, avec un roman pareil, j'espère que oui, quand même. Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut à tous, salut Mickaël. Ouais. Écoute, t'as encore fait très très fort.
Ouais. Voilà, on a perdu là.
On a un petit peu perdu.
Un petit peu beaucoup là.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y avait un mélange de plein de titres du dernier album, mais
oui,
pas forcément, mais d'autres avant aussi. Hein.
Oui, des poèmes plus anciens.
Et en plus,
traduit.
Oui, des poèmes plus anciens, c'est des poèmes, c'est vrai.
Il a utilisé Google Traduction, mais très bien, Michel.
Ah, un petit peu quand
un
même.
Un petit peu,
mais bon,
hein.
Ouais.
Parce que Michel est l'anglais, c'est pas...
Ah bah non,
ça,
hein,
mais...
non. Bah. Mais la prochaine fois, il faut que tu chantes des poèmes en espagnol.
Ah oui,
ça arrangerait ton niveau.
Alors, il faudrait d'abord que j'apprenne l'espagnol.
Voilà. Continue en anglais, alors.
Ça, ouais. Je prends un peu de temps. Oui. J'ai fait allemand LV2, moi.
Michel, c'est très très fort encore.
Ouais,
d'habitude.
Bravo, hein, c'est super.
Donc, un bon roman, a priori.
Une
belle histoire.
Ouais. Belle histoire.
Mais dès qu'il y a des invités, il m'arrive plein de choses, en fait.
Michel. Et étrange, quand même. Hein,
mais des trucs très étranges.
Oui,
ouais.
On ne sait plus. Ouais, ouais. C'est comme le poème d'Edwin Arlington Robinson. Hein, c'est, ouais.
En fait, quand on parle d'Edwin Arlington Robinson, il y a toujours beaucoup de choses à raconter.
Voilà.
C'est ça.
Donc, il nous faudra bien au moins 2 heures. C'est pour ça que tu es là ce soir. Au moins. Allez,
vamos.
Mm-hmm. Yeah.
10 minutes de pur bonheur. Et ce n'est pas tous les soirs qu'on peut s'enorgueillir d'une telle performance et en présence d'un invité. Il faut dire que le choix du morceau culte de ce soir était cornélien. Alors normal, hein, vous me direz, puisque ce soir, il sera question de poésie.
Hein oui. Absolument.
Mais pas seulement. Il s'agit d'abord de rendre hommage à un guitariste disparu ces dernières semaines. Au départ, ça devait être Jeff Beck, disparu le 10 janvier 2023 à l'âge de 78 ans. Un morceau des Yardbirds aurait fait l'affaire. Puis, 9 jours plus tard, c'est au tour d'une autre légende, David Crosby, de rejoindre Gene Clark, son pote des Birds au Panthéon du Rock. Et là, on était du côté de Crosby, Stills, Nash & Young, du côté morceau culte. Et puis, voilà que disparaît le 28 janvier 2023, dans la plus totale indifférence, un autre chanteur et guitariste, Tom Verlaine. Et puisque l'émission de ce soir sera consacrée à la poésie mise en musique, on ne pouvait pas passer sous silence celui qui créera en 1973, avec Richard Hell, le combo new-yorkais Television. Hein. Leur premier album, Marquis Moon, sorti en 1977, est généralement considéré comme l'une des plus grandes œuvres du rock. Dixit Wiki, que l'on salue. Les chansons sont bâties sur des jeux de guitare entremêlés de Tom Verlaine et Richard Lloyd, faits de dissonances, d'arpèges joués à l'envers, entre autres, posés sur une remarquable section rythmique. Ça, c'est plutôt notre invité qui pourrait en parler. Tom Verlaine chante toutes les compositions du groupe, d'une voix, elle aussi, inhabituelle, tour à tour faible, suppliante ou ironique. Peu remarqué à sa sortie, Marquis Moon a acquis au fil des années un statut d'album culte. Les critiques louent les paroles elliptiques et poétiques de Tom Verlaine. Marquis Moon est aussi le titre du morceau culte de ce soir. Guitariste réputé, Tom Verlaine, avec son groupe Television, ont influencé de nombreux musiciens de la scène rock. Est-ce le cas de notre invité d'un soir, Mickaël Cointepas? Tom Verlaine et Television, ça te parle forcément?
Oui, j'ai écouté un peu. Après, j'étais pas un grand connaisseur de ce groupe-là. Et d'ailleurs, j'avais pas remarqué cette histoire d'arpège inversé là, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée.
Donc, à défaut d'être connu du grand public, Television et Tom Verlaine ont obtenu la reconnaissance du milieu du rock. Une fois de plus, c'est dommage pour nos cultures générales, non?
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est passé totalement inaperçu.
Oui, c'est le problème quand il y a beaucoup de choses qui se passent.
En même temps.
On passe à côté de choses qui intrinsèquement sont importantes, ouais. Malheureusement.
Ouais, à la télévision, nous on l'a vu, mais on ne l'a pas connu. Voilà, c'est un peu ça. On parle de poésie, on parle de Tom Verlaine, on va parler d'Edwin Arlington Robinson comme on aurait pu parler d'Emily Dickinson. Aux États-Unis, y a une culture de la poésie très développée. En musique, on pense à des artistes comme Bob Dylan, Joan Baez, à Bruce Springsteen, à Patti Smith, Lou Reed, Le Velvet Underground, Jim Morrison et les Doors. Ce n'est pas une spécialité des États-Unis, mais en tout cas, le mélange des notes et des mots a donné des artistes légendaires. Comme quoi, écrire quelque chose qui a du sens et le chanter est aussi possible. Hein. Il n'y a pas que I Was Made for Loving You ou Jump au pays d'Oncle Tom quand même.
Hein. C'est vrai.
C'est vrai, hein.
Ouais. Je crois que c'est le pays de... qu'on dit souvent que c'est un pays d'extrême. Et c'est vrai que tu as le meilleur et le pire à la fois dans le même endroit.
Ouais. Bah, en France aussi, on l'a. Hein,
c'est vrai.
Partout, on l'a, finalement.
Mais particulièrement...
Mais ça s'exporte moins en France.
C'est exacerbé aux États-Unis, ouais, je trouve. Enfin, ouais. Tu vois, il y a des choses magnifiques et en même temps, des choses horribles. Enfin, des personnes qui font des trucs horribles. Et en même temps, il y a cette culture... cette musique en particulier qui moi me touche beaucoup personnellement, ouais.
Mm-hmm. Ouais, c'est tout dans un peu dans le même esprit, les artistes que je vous ai cités, il y a la basse folk mais pas seulement quoi,
il y a énormément d'artistes d'artistes peut-être plus récents aussi qui font des choses incroyables, il y a vraiment une vie musicale qui est vraiment foisonnante
et il y a une culture de la poésie aussi là-bas, j'imagine.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment une culture de la poésie. Après, je ne suis pas un spécialiste de la poésie contemporaine.
Plus que nous. Hein.
Américaine, en tout cas.
Pas encore, parce que tu t'es arrêté aux années à 35, donc c'est pour ça.
Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la musique américaine d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes, je pourrais en citer plein. Je ne sais pas, Madison Cunningham, que j'ai vu en concert il y a quelques mois, qui font des choses, qui continuent de faire évoluer, de faire vivre... la musique d'une manière vraiment intéressante, je trouve.
Ouais. Mais qui passe pas à la télévision, comme télévision.
C'est vrai. Voilà.
Donc, des trois guitaristes que j'ai cités et qui ont disparu donc, en janvier 2023, comme trois d'un coup, hein, lequel tu te sentirais le plus proche?
Alors, j'aurais tendance à dire Crosby.
Ouais. Tu aurais préféré un morceau culte de Crosby alors?
Non, j'aime aussi beaucoup Television, c'est dur de les comparer. Tu
vois. C'est ça, oui.
C'est des carrières aussi assez différentes, mais c'est vrai que j'ai pas mal aimé les Birds.
Ouais.
Et bien sûr, Crosby, Stills, Nash & Young, évidemment. Ouais.
Jeff Beck, moi?
Jeff Beck, j'écoutais aussi pas mal à une époque, surtout quand je bossais l'instrument, la basse électrique.
T'as perdu métal, c'est ça?
Non. Enfin oui, j'ai eu une petite période métal.
Ah oui, c'est pour ça. Oui,
métal. Bref, période métal. Mais, Jeff Beck, c'est vrai que je... Comment dire
C'est plus un technicien?
Ouais, enfin le personnage est attachant déjà. Et puis il exprime aussi des choses, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis moins, ému par la virtuosité. Mm-hmm. C'est pas un critère qui va forcément... Enfin, t'as des gens qui se trouvent être des virtuoses et qui aussi vont être très émouvants.
Ouais.
Mais
c'est rare, non ?
De manière intrinsèque, la virtuosité, c'est pas quelque chose qui, vers lequel je vais être attiré, disons, je pense.
Ouais, ouais. Bien, allez, il est l'heure de rentrer dans l'univers d'un des plus talentueux poètes que les États-Unis aient connu, hein, Edwin Arlington Robinson. La musique est signée Vesperland. Avec Mickaël Cointepas, nous sommes loin du terminus. Et tant pis si ce soir, nous passerons pour des prétentieux. Voilà, il faut juste que ça démarre. Et ça démarre pas. Voilà, c'est parti. Eh bien, il est 17h passé de 42 minutes sur les 90.0 de Radio B. Ou alors, Tonio?
Ou alors, vous écoutez l'habituelle heure diffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h. Ou l'heure diffusion du samedi après-midi, 14h.
Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour la quatrième fois, si je ne me trompe pas. Tu étais venu une fois avec Denis Rivet, puis une fois avec Fred Bobin, je crois.
Absolument.
C'est ça. L'artiste lyonnais, non, l'artiste caladois, désormais caladois, Mickaël Cointepas.
Il n'était pas venu aussi avec la fille de Raymond Gary?
Ouh,
il me semble.
C'est possible. T'étais venu avec elle.
J'ai joué avec Jeanne pendant quelques années, mais
oui, t'étais venu avec elle.
Mais je me souviens pas si j'étais venu.
Mais il me semble que oui.
Tu as pas tort. Oui.
Il me semble.
Oula, je l'ai pété. J'ai oublié cette fois-là.
C'est tout. C'était pour la petite parenthèse.
Merci Tonio.
Mais je t'en prie, Michel.
Oui, c'est vrai. Maintenant que tu me dis, c'était pas uniquement parce qu'il jouait. Peut-être qu'il jouait à l'époque peu de temps après.
Il l'accompagnait, ça. Il l'accompagnait.
T'as joué à Arfonem avec Jeanne Garraud, peut-être.
Oui, absolument.
Ah bah c'est pété.
C'est.
Merci Tonio de me rappeler mon âge. Merci. Mickaël Cointepas, donc il est venu nous présenter donc Exit, le nouvel album de son projet indie folk Vesperland, sorti le 3 mai 2022. La dernière fois que tu es venu à notre rencontre, c'était le jeudi 12 septembre 2019 à l'occasion de la sortie le 17 mai 2018 de la troisième galette Two Years Later and Other Poems by William Butler Yeats. Il s'est donc écoulé un peu plus de 3 ans et demi. Depuis, le monde a bien changé, paraît-il.
Dans le monde d'après, oui.
Donc, comment as-tu vécu, toi, ces 3 années un peu particulières? Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis ta venue à Radio B, t'es plus lyonnais, mais caladois?
Ouais. Il y a beaucoup de choses ont changé. Hein. C'est vrai que, déjà, moi, je l'ai vécu d'une manière étonnante, dans le sens où le premier confinement, j'ai vraiment trouvé que c'était un espèce de moment de pause dans la vie, quoi. Et pour moi, ça m'a beaucoup stimulé, quoi. J'ai vraiment apprécié ce côté-là, le fait que tout s'arrête. Finalement, j'ai eu l'impression d'être un peu moins obligé d'être dans le permanent...
De courir.
Ouais, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Et je me suis rendu compte que le travail que je fais me procure aussi une certaine angoisse dans la vie, quoi. Ce dont je n'avais pas à ce point conscience, je pense, avant cette expérience-là. Et après, pour les deuxièmes et troisièmes confinements, comme les autres personnes recommençaient à travailler, là, du coup, je l'ai vécu comme on est mis sur la touche, les musiciens. Donc, c'était un peu plus difficile à vivre. Mais bon, je me suis concentré sur essayer de continuer de faire de la musique, de travailler sur sur des projets musicaux chez moi, quoi. Et finalement, on a eu la chance aussi d'être soutenu et d'avoir la possibilité de rester dans la musique, quoi. C'est ça.
Donc, qu'est-ce que j'ai pu noter, moi, pendant ces 3 ans entre-temps, il y a eu le 4 titres remix 16 le 25 septembre 2020.
Oui, c'est vrai.
Hein, donc, 4 morceaux des anciens albums de Vesperland.
Absolument. En fait, c'est un espèce de mini, on va dire un EP, quoi.
Ouais.
Mais que j'ai fait vraiment en suivant une envie musicale de faire de la musique électronique. Mmh. Ce que je faisais un peu avant dans un groupe qui s'appelait 30 Minutes Later, mmh. avec Marie Davier. Et ce groupe s'est arrêté. Et du coup, j'avais envie de continuer de faire de la musique électronique. Et donc, j'ai fait ce disque en invitant des musiciens avec qui j'avais envie de travailler. En leur faisant une sorte d'ébauche, donc une version ébauchée de morceaux que j'avais déjà enregistrés précédemment. Et en leur disant... voilà, à toi de t'approprier ce que tu veux de ce morceau. Et c'était une super démarche, c'était très intéressant à faire musicalement. Parce que finalement, j'ai choisi des gens dont j'étais à peu près sûr d'être content de ce qu'ils allaient me proposer. Donc il y avait quand même une petite prise de risque, disons. Mais il y a aussi le fait que quand t'envoies comme ça une sorte de ballon d'essai, quoi... Il y a ce truc où ça rebondit d'une manière qui est toujours surprenante. Et en fait, chaque morceau est parti dans une direction que je n'avais pas forcément imaginée au début. Quoi. Et ce qui était très, comment dire, très agréable, en fait. Enfin, il y a un côté mm-hmm. où ça, je me suis laissé embarquer dans cette aventure-là. Quoi. Après, le problème, c'est que je l'ai sorti à un moment où finalement, ça a un peu joué en ma défaveur en termes d'actualité, de recherche des concerts. Bah oui,
le 20 novembre, effectivement.
Non, mais parce que je...
Non, le 25 septembre, c'était. Ouais.
Je pense aussi qu'à cette époque-là, je voulais continuer de tourner en guitare-voix avec Paco, le bassiste. On était en duo à l'époque. Et du coup, sortir un disque de musique électronique, finalement, ça peut te desservir si tu cherches à jouer en guitare-voix, quoi.
Ah bah oui, effectivement, ouais.
Mais bon, j'avais envie de suivre un peu mon envie musicale,
bah
quoi,
oui.
C'est ça.
Bah oui.
Après, je désespère pas de faire une version électronique de Vesperland sur scène, mais je pense qu'il faut...
Ah
oui. Faudra que je m'en donne le temps et puis l'occasion. Enfin, il faudra trouver l'occasion, quoi, c'est ça.
D'accord.
Mais ça me plairait beaucoup, je pense, de faire ça.
D'accord. Ouais. Donc, durant ces 3 années... de nombreuses collaborations,
ouais.
Un disque hommage à Mathieu Côte dans lequel tu as participé.
Oui, j'ai participé comme musicien, comme batteur.
Sorti.
Bah, en tout cas, c'est un super disque, ouais. Il y a beaucoup d'invités dessus,
ouais.
Musiciens qui connaissaient Mathieu de près ou de loin. Et c'était une super aventure humaine de faire ce disque-là,
c'était
super chouette.
Donc tu collabores aussi avec le groupe Thread.
C'est un groupe qui est assez nouveau, même s'il a vraiment... Enfin, justement, tu me demandais... ce que j'avais fait pendant le confinement. Et c'est un des projets qu'on a décidé de faire juste avant que le confinement commence. Quoi. Du coup, j'en ai profité pour faire des morceaux pour ce groupe-là. Quoi. Et donc, c'est un groupe plutôt de rock, un peu de noise rock, disons, où je joue de la batterie et je chante en même temps. Ouais. Et donc, on est en trio, guitare, basse, batterie. Et on fait quelques concerts de temps en temps dans la région.
D'accord. Donc, Fred Bobin, ça continue.
Ça continue, oui.
Tu te partages avec
Clément Soto.
Oui. Avant, il n'était que pour toi, maintenant, tu le partages.
C'est ça.
Enfin, ça commence à dater, ça fait un moment.
Ça fait un moment déjà, oui.
Vous le partagez, oui.
En tout cas, on a enregistré, on a participé avec Clément à l'enregistrement de son prochain album qui va être un très beau disque de Fred Bobin.
Qui sera forcément un beau disque et qui viendra nous présenter soit à la rentrée, soit au début de l'année prochaine, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Ouais.
J'imagine.
Voilà, donc après, tu as collaboré à un moment avec le groupe, avec le slammer Fafa Punk, et puis maintenant, c'est Slamouraï.
Absolument, ouais. On continue toujours avec Slamouraï. On a enregistré récemment là, au studio des Subsistances là, avec Nicolas Matagrin. Donc on va avoir de la nouvelle musique à faire écouter.
Voilà.
Et puis on bosse en trio avec un batteur qui s'appelle Vincent Jakobowski. Ouais. Voilà, donc batterie, guitare et slam.
D'accord. Bon, on te retrouve également avec Guillaume Dioups.
Alors j'ai participé sur ses disques.
Voilà.
Donc il avait fait un premier EP il y a quelques temps déjà, où j'avais vraiment filé un coup de main pour enregistrer, puis j'avais joué de la contrebasse et quelques instruments. Et sur son dernier album, il m'a confié un peu plus le rôle de faire des propositions pour des arrangements et de réaliser un peu, entre guillemets, le disque, quoi. Et c'était super aussi, c'est très chouette de bosser avec lui, quoi. C'est quelqu'un de très agréable et qui est très libre et qui a beaucoup d'idées musicales, quoi. Et du coup, moi, ça m'a vraiment donné un espace dont j'essaie de m'emparer le mieux possible, quoi. Tout en ayant aussi un peu le souci de que ça soit vraiment son disque, quoi. C'est ça. Enfin, en tout cas, j'avais vraiment envie d'être au service de son univers, quoi, et de pas vouloir surimprimer mes choix partout. Ouais. Bon. Et c'était une super expérience. C'était très chouette de bosser avec lui.
C'était le cas avec le projet Tracer la route avec François Gaillard et puis Marie Bobin. On en a parlé au téléphone avec François il y a 2 ans, bientôt 3 ans.
Ouais.
Lors de sa sortie, t'as joué un petit peu même avec Hélène Pierry, je ne savais pas.
J'ai fait des remplacements avec Hélène.
T'as fait des remplacements.
En fait, il se trouve que je suis le deuxième remplaçant de batteur. Donc c'est de dire si je suis plutôt du côté du banc du terrain. Mais, mais c'était très chouette aussi, c'était une super expérience. En fait, donc Hélène, elle joue en trio, elle est au violoncelle, elle chante. Et il y a deux musiciens qui se partagent le poste de saxophoniste, saxophone bariton. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de jouer avec les deux, quoi.
D'accord.
C'est Thibaut Gallois et Rémi Matra. Il se trouve que Rémi Matra, je le connaissais déjà depuis l'époque où j'étais à l'ENM il y a des années. Donc c'était un plaisir de le retrouver. C'est un super projet, c'était très chouette de partir avec eux, même si c'est pour moi, c'est une date de temps en temps comme ça, y a un côté très agréable.
Alors par contre, plus surprenant, Louis et vous, la comédie musicale participative.
Alors là, je n'ai pas vraiment participé moi comme artiste, j'ai enregistré les voix pour eux chez moi.
D'accord.
En fait, donc c'est, pour expliquer un peu, donc c'est une comédie musicale avec plusieurs interprètes, qui sont 5, et c'est un peu sur la thématique... c'est autour de la musique de l'époque des années 80, quoi, au sens large, la pop des années 80. Quoi. Et donc, il y a toute une narration et il y a beaucoup de chansons en fait, qui sont arrangées avec des arrangements à 5 voix. Et donc, ils m'ont proposé d'enregistrer juste les voix, en fait, voilà. Juste de faire les prises de voix. Et donc, après, il y a toute une équipe derrière, il y a d'autres gens qui ont mixé. C'était une chouette expérience de rencontrer ces interprètes et tout. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de faire un peu ce boulot, d'être un ingénieur du son. Mm-hmm. En tout cas, je l'ai beaucoup fait pour moi, disons.
Ouais.
Et c'est super aussi de le faire pour d'autres, même si je n'ai pas forcément vocation de concurrencer des studios d'enregistrement. Mais voilà, je pense que ce que moi je fais, c'est un peu différent, disons. Mais c'était une super expérience de faire ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire des choses comme ça, quoi, de temps en temps.
Aussi, autre chose surprenante, les aventures du petit Nicolas II.
Ah, bah oui, alors c'est...
Ah bah, quand même, à France Culture.
Absolument, ouais.
Eh, hein.
Bah, ça, c'était un projet qui, entre guillemets, je dirais, m'est tombé dessus, parce que j'avais pas forcément prévu de faire ça, tu vois.
Ah bah, j'imagine, oui.
Mais donc, on m'a proposé ce rôle-là, en fait, c'est Olivier Longre, qui est le compositeur. Et donc, pour le présenter, c'est un musicien qui est extraordinaire, quoi, qui joue de très nombreux instruments et qui a une sensibilité particulière. Et du coup, il est donc le compositeur de... En fait, c'est une adaptation radio des aventures du petit Nicolas qui est enregistrée en public au studio 104 de la Maison de la Radio, quoi. Donc, c'est un très bel auditorium de 900 places dans la Maison de la Radio. Ouais. Et du coup, l'année dernière, déjà, il m'avait proposé de faire ça et... Ça a été une super expérience de faire ça pour moi, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est un peu à une autre échelle que ce que je peux faire habituellement, quoi. Et puis, j'ai beaucoup apprécié de bosser avec cette équipe-là, quoi, avec ces gens-là et tout ça. Enfin, et puis, c'est vrai que c'est des conditions de travail qui sont extraordinaires aussi.
Ouais.
Et donc, on était une équipe de 4 musiciens, où, avec des profils différents, on était tous multi-instrumentistes. Donc, moi, j'étais en poste guitare électrique, contrebasse et batterie. Olivier Longre, le compositeur, lui, il avait de très nombreux instruments. Mandoline, flûte à bec, je ne saurais pas tous les nommer, clarinette, piano, évidemment, je crois. Enfin, des petites percussions, beaucoup d'instruments, disons. Et il y a aussi une flûtiste qui joue aussi du piano. Et il y a également un tromboniste qui joue aussi du tuba. Voilà. Raphaël Martin et Marie Séguier, je peux les citer.
Oui, tu peux, tu peux.
Et du coup, c'est des musiciens qui ont un peu... On a chacun un peu des profils un peu différents, disons. Mais c'était, pour cette raison-là aussi, très agréable de jouer avec eux et de les côtoyer, de passer du temps ensemble et tout ça. Et de faire de la musique ensemble, c'est super, ouais. Quoi. Et du coup, c'est aussi pour moi... j'ai beaucoup apprécié le côté de faire de la musique au service d'autres choses, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'était un peu, on va dire, du théâtre. Mmh. Et c'est hyper intéressant aussi de ce rapport-là, disons. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai eu assez peu, finalement, l'occasion de faire. Et c'est, ça m'intéresse beaucoup, ce côté-là, quoi. J'aime beaucoup ça, ouais.
Donc, pour en revenir à pendant ce temps-là, à Vesperland, qu'est-ce qu'il faisait?
Ben Vesperland, pendant ce temps-là, il continue d'essayer de jouer en trio.
Pendant ces trois ans, ouais.
Ben donc on a intégré une des nouveautés, disons, c'est qu'on a intégré un batteur qui s'appelle Maurizio Chiavaro, et qui nous a apporté, qui a une sensibilité, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de musique improvisée, et du coup il nous a amené une énergie particulière et une écoute, et du coup ça a un peu transformé la version scénique de Vesperland, qui jusqu'à maintenant était plutôt guitare-voix avec de la basse, quoi. Mm-hmm. Donc ça restait quand même quelque chose d'assez qui nécessitait une écoute attentive, assez calme, on va dire. Enfin, et avec la batterie, c'est vrai que ça amène une énergie qui permet d'avoir un peu un panel qui peut nous emmener de choses vraiment assez intenses par moment. Et en même temps, on peut aussi jouer. C'est un batteur, Maurizio, qui joue avec une très grande finesse. Et du coup, c'est arrivé qu'on fasse des concerts entiers sans micro acoustique comme ça. Alors que je chante quand même notoirement doucement, hein, c'est ça.
Oui.
J'ai absolument pas de technique vocale, c'est mon secret, je crois. Et du coup, c'est super d'avoir ces possibilités musicales qu'on a envie de continuer d'explorer. Enfin, pour l'instant, ça fait pas non plus si longtemps qu'on joue ensemble, et du coup, ça me semble fonctionner très bien, et j'ai l'impression qu'on a encore plein de choses à découvrir, à explorer, à chercher. Ouais.
Mais c'est un batteur qu'on ne trouve pas sur le nouvel album de Vesperland.
Non, parce que l'album, c'est moi qui ai joué les batteries. Ouais.
Oui.
C'était avant qu'il...
Allez.
Ça incite aussi à... Moi, ça m'emmène aussi à l'idée d'enregistrer, de fonctionner un peu différemment, quoi. Peut-être prochain album, de faire un truc plus live, c'est ça. Enfin...
D'accord.
Bon, c'est encore des réflexions lointaines. Ouais.
Bien. Bah, ce quatrième album, hein, parce que, qui s'appelle donc Exit, hein, qui est sorti, je l'ai dit, le 3 mai 2022.
Oui.
On va en écouter après les morceaux, puis on va en parler de ce nouvel album. Ben, on a jusqu'à 19h, hein, parce que.
On est tranquille.
On est tranquille. Mais oui, parce que sinon, on serait un petit peu en retard. Ouais. Ouais.
Oui.
Mais là, on n'est pas en retard ce soir.
Pas plus que d'habitude.
Pas plus. Non. Ce soir, on a le temps.
On a le temps.
Allez.
Eh bien, écoute, le morceau qu'on va justement écouter, c'est... on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, parce qu'on l'a cité. Hein.
Ben oui, c'était en dessous de la porte, tu sais.
Oui. Voilà. Moi, je l'ai francisé. moi, j'ai dit Richard Corey, mais c'est Richard Corey.
Richard Corey.
Voilà. Donc, un extrait, donc Exit.
Ah oui.
Vesperland.
Thank you. light and wins without the meat and curbs the bread. And Richard Curry won't come some night while home puts a bullet through his head.
Richard Curry, un extrait de l'album Exit par Vesperland.
Et ça tombe bien, Michael Quintepas est avec nous ce soir. Le chanteur est multi-instrumentiste, c'est ça hein,
oui.
Même si tu ne fais pas tout sur cet album.
Je ne fais pas tout, mais je fais la
mais
plupart.
Mais quand même, ouais.
Sur ce morceau, par exemple, il y a le pedal steel de Mathieu Davalet qu'on entend.
Voilà.
Je le salue s'il nous écoute.
Tu crois qu'elle nous écoute ?
Je ne sais pas. Peut-être qu'il va réécouter. Je sais pas.
Mais oui, mais oui. Bon, donc un quatrième album. Alors, donc ton dernier album datait de 2018.
Oui.
Donc, il s'est écoulé 4 ans. D'abord, est-ce qu'à un moment, Vesperland aurait pu s'arrêter ?
Peut-être, ouais.
Ouais.
Peut-être, ouais. C'est vrai. Je ne sais pas. En fait, c'est dur à dire rétrospectivement.
Ouais.
Mais disons que c'est vrai que c'est un projet quand même un peu pointu, hein, on va pas se mentir. Et du coup, c'est pas forcément extrêmement facile de faire tourner, tu vois, le truc de faire des concerts et tout ça, quoi.
Ouais. Ouais.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où des fois je me dis, est-ce que vraiment ça mérite toute cette énergie, tu vois. Après, il y a des trucs qui m'ont relancé, comme par exemple, c'est vrai que l'arrivée de Maurizio, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. Il y a aussi... certains concerts qu'on m'a proposés à un moment où je me disais j'ai plus trop envie de m'en occuper, disons. Et il y a des concerts qui sont tombés à ce moment-là, qui ont un peu relancé la machine. Quoi. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est comme tout, je pense qu'il y a des moments où on a beaucoup d'envie de faire des choses, puis parfois on est un peu moins, on est un peu plus absorbé par d'autres problèmes ou par d'autres choses, par d'autres projets qui sont aussi intéressants.
Donc, rappelons un petit peu les différents auteurs jusqu'à présent. Hein. Donc, William Blake...
c'est ça, 2011.
2011, non, il n'est pas américain, il était...
Il est anglais, William Blake.
Il est anglais.
Ouais.
Une fille, Emily Dickinson, qui était américaine.
Oui, tout à fait.
On est revenu du côté de l'Irlande avec William Butler Yeats.
Oui.
Et donc, le quatrième...
Edwin Arlington Robinson.
Voilà, qui est... américain.
Absolument.
Voilà. Ouais. Alors, tu aurais pu être la parité, tu aurais pu prendre une fille. Comment s'est porté le choix de ce quatrième poète ?
En réalité, je suis vraiment une démarche active de recherche, quoi, de texte.
Ouais.
Par période, on va dire.
Et donc déjà forcément anglo-saxon déjà. Enfin, parlant en anglais.
Oui, plutôt.
Oui, d'accord.
Ouais.
Ok, ensuite alors.
Pour une raison musicale, en fait, c'est que quand j'ai commencé ce projet Vesperland, j'étais déjà très impliqué dans la scène de chansons, quoi, la musique française, que j'aime beaucoup. Mais je pense que le fait de faire ce projet, c'était aussi parce que j'avais envie de me reconnecter un peu à une certaine esthétique musicale, de folk. Plutôt américain ou anglais, quoi, à laquelle j'avais vraiment envie de... Enfin, c'est dans cette direction-là que j'avais envie d'aller, disons.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est plus pour un choix esthétique que vraiment pour une question de préférer l'anglais ou le français. Enfin, c'est
d'accord.
Ça, j'aime vraiment bien les deux. Et...
Donc, comment as-tu choisi ce deuxième américain ? Parce qu'un anglais, un américain, enfin, une américaine... un Européen, deux Européens, deux Américains, voilà.
En fait, et
deux Son, voilà.
Ça a été
donc c'était forcément un nom finissant par Son.
Non, pas forcément.
Emily Dickinson et Robinson.
Oui, c'est pour la rime, c'est ça. Ouais.
C'est pour la rime.
Non, mais en fait, non, en fait, ce qui m'a touché, c'est beaucoup. Bon, évidemment, les textes m'ont plu, quoi. Mais ce qui m'a particulièrement touché, c'est le parcours du personnage aussi, qui est, je pense, qui donne aussi un éclairage sur son œuvre. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une vie difficile, quoi, qui a traversé beaucoup d'épreuves.
Comme les trois premiers, non ?
Comme
les trois premiers auteurs ou autrices que tu as...
Oui, un peu différemment, disons.
Tu as travaillé
que William Blake, c'est plus quelqu'un qui a ce côté un peu mystique, étrange.
Avec là, lui...
Et en même temps, qui a quelque chose pour moi, à la fois de très, un peu obscur dans ses textes. Et en même temps, il y a des images très, très simples, très belles, tu vois.
Alors que là...
Et Emily Dickinson, par exemple, elle a plus un espèce de côté très sombre, qui, moi, ça me parle, en fait, enfin, cet univers-là. Et il y a le côté fascination de la nature et tous ces trucs-là. et puis des textes d'une grande singularité, quoi. Et lui, en fait, il a, c'est vraiment sur l'existence, sur l'homme, sur la vie, sur les choses qu'on traverse. Et je sais pas comment dire, mais dans sa vie, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui résonne, pour moi en tout cas, entre l'époque dans laquelle on est, où finalement on questionne beaucoup la masculinité, quoi. Enfin, la place qu'elle a, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la manière dont la masculinité s'exprime. Et c'est sans doute justifié, tu vois. Et en même temps, la société, elle nous impose un espèce de modèle d'homme super, comment dire, de winner qui réussit tout, machin. Enfin, c'est une espèce d'un modèle absurde, disons, dans lequel c'est... Enfin, ça peut être épuisant d'essayer de se... vers lequel ça peut être épuisant d'aller, tu vois. Et lui, j'ai l'impression que c'est l'exact inverse de ça, tu vois. Il y a quelque chose de très beau dans... C'est vraiment quelqu'un que... Comment dire? Par exemple, quand il était jeune, il était déjà passionné de poésie à un très jeune âge, quoi. Et c'était déjà le plus jeune membre du comité de poésie de son quartier où il était, quoi. Enfin, et bref, assez jeune, il était très amoureux d'une femme qui s'appelle Emma Shepherd. Et il a fait l'erreur de la présenter à son frère, qui était le frère héritier de la famille, entre guillemets. Ouais, sachant que dans les années... Donc lui, je crois qu'il est né en 1869, si je ne me trompe pas. Et dans les années, on va dire, à la fin du 19e, quoi, il y a une crise économique dans les années 1890, quoi. Ah ouais, dans le milieu des années
90.
Et avant ce truc-là, sa famille était assez, comment dire, florissante dans l'industrie du bois, je crois, dans le Maine, où ils habitaient.
Riche, quoi. Hein,
ouais, c'est ça. Et donc, Emma Shepherd a préféré épouser le frère d'Edwin, Arlington Robinson.
Ah, parce que...
Ça a été un drame personnel pour lui, quoi.
Ah bah oui,
et ça, je pense que ça a habité son œuvre, mais... Donc toute sa vie durant, il a quand même eu la chance de faire un peu des études à Harvard, un peu contre l'avis de son père, quoi, qui n'était pas forcément pour.
Ah ouais.
Mais ça lui a donné un peu un bagage, et puis l'envie d'être dans un monde, je pense, littéraire, c'est ça. Enfin, et en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait assez peu de concessions, quoi, qui a eu une œuvre, une vie, comment dire, un peu dédiée à son travail. Et en passant par des périodes où il était assez pauvre, il a mal galéré, quoi.
Il a même travaillé comme chronométreur dans le métro.
Comme arpenteur du métro, très mal payé, un métier. Enfin, où t'es dans les tunnels du métro toute la journée.
Fallait bien survivre, quoi, à l'époque. Jusqu'à ce qu'il rencontre...
Donc il a souvent eu un peu faim, il a toujours été habité un peu dans des taudis à New York et tout ça.
Jusqu'à ce qu'il rencontre... l'inverse, enfin, pas qu'il rencontre...
Alors, en fait, l'anecdote, c'est tu parles sûrement de Theodore Roosevelt.
Voilà.
En fait, donc ça, c'est arrivé quand il avait un peu avancé ses 40 ans, je pense, quand il avait 38-39 ans.
Il était déjà un petit peu connu, quand même. Ouais.
En fait, il avait déjà publié des choses, mais il n'était pas vraiment très connu, quoi.
Voilà. Il avait du mal à publier.
Il a publié des premiers livres à compte d'auteur et tout ça. Enfin, et en fait, il donnait aussi des cours, il enseignait un peu la littérature. Et parmi ses élèves, il se trouve qu'il y avait Kermit Roosevelt, qui est le fils de Theodore Roosevelt. Donc pour les auditeurs, on peut rappeler que Teddy Roosevelt ou Theodore Roosevelt, c'est un président américain du début du XXe siècle, qui n'est pas... Franklin Roosevelt, qu'on a connu, qui est après, quoi.
C'est un cousin, d'après ce que j'ai lu.
Voilà.
C'est un cousin.
Donc Teddy Roosevelt, c'est avant, c'est vers 1910.
Voilà.
Et c'est pas, donc pas le Franklin Roosevelt du New Deal.
Non,
quoi,
c'est pas le même. Hein. Voilà. Non.
Et donc.
Mais bon, quand même.
Teddy Roosevelt, donc lui.
Je crois que les deux ont connu une guerre mondiale, il me semble. Hein.
Oui, les deux grenadiers, c'est. Ouais.
Je crois que Teddy Roosevelt, il a participé à la Première Guerre mondiale.
C'est ça.
Ouais. Et donc.
Oui, tu dis.
Je sais plus ce que je disais. Ah oui. Donc en fait voilà, Teddy Roosevelt, il lisait un livre par jour à peu près, et donc il avait une pile chez lui de livres.
Une pile, on dit.
Donc sa femme et son fils étaient fans de Edwin Arlington Robinson.
Ouais, c'est ça. C'est une palette.
Donc tous les deux, ils avaient le bouquin de Robinson, ils étaient fans, quoi. Ils adoraient son travail. Et donc le livre a atterri dans la pile de Teddy Roosevelt, sauf qu'il a jamais, il a jamais été jusqu'en haut. Mais bon, à la longue, à force de voir que sa femme et son fils étaient là-dedans, il a fini par s'y intéresser. Et il a essayé de l'inviter à la Maison-Blanche pour le rencontrer, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, il était dans un grand dénuement, Edwin Arlington Robinson, et il a dit, il a répondu par une lettre assez longue où il explique qu'il est pas, il estime pas être en mesure d'être habillé suffisamment bien pour pouvoir aller manger à la Maison-Blanche, quoi. Donc il a décliné l'offre, mais en expliquant que voilà, c'était du fait de sa situation économique, quoi. Et donc pour l'aider, en fait, Teddy Roosevelt lui a donné un travail dans l'administration des douanes en lui disant « Occupez-vous surtout d'écrire de la poésie, posez votre le journal du jour sur votre bureau le matin pour montrer que vous êtes là, mais après vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. » Et de surtout essayer de faire de la poésie. Ouais.
Ouais. Bah, ça a bien marché. Parce que
ça, ça l'a un peu relancé, je pense. Mm-hmm. Et bon, sur la fin de sa vie, il a eu quand même. Ouais, voilà, il a été nominé plusieurs fois au.
Et trois fois le prix Pulitzer de la poésie. Hein,
et je crois qu'il a été nominé pour les Nobel aussi de littérature, mais qu'il ne l'a pas eu.
D'accord.
Et donc, c'est là, c'est une reconnaissance, on va dire, tardive, mais, mais quand même effective. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un auteur par rapport aux autres que j'ai mis en musique, qui est quand même un peu moins connu en France, en tout cas. Autant William Blake, les gens ont un peu en tête, parce qu'il était aussi. Il faisait des peintures et tout ça. William Butler Yeats, je pense que c'est le côté irlandais. Il y a tous les gens qui sont en lien, qui s'intéressent à l'Irlande, ils connaissent quoi. Mmh, ouais. Quand tu vas dans un pub irlandais, tu parles de Yeats, c'est leur Victor Hugo à eux quoi.
Ouais, bah, c'est battu contre la domination anglaise quoi.
Ouais, voilà,
la présence anglaise en Irlande quoi.
Ouais, c'est un patriote
autres,
irlandais.
Autres, ouais.
Et donc Emily Dickinson, bah, il se trouve qu'il y a récemment dans la culture populaire, il y a eu des séries et des films sur elle en fait. Donc ça a permis un peu de la faire connaître quoi.
D'accord.
Et c'est vrai que Edwin Arlington Robinson, c'est un peu moins le cas, il est moins en vue quoi. Mais je trouve que son œuvre est particulièrement touchante et intéressante aussi quoi. Ouais. Et le morceau que vous avez choisi de passer, Richard Corey, en fait, c'est un morceau qui a été repris par Simon & Garfunkel, mais ils ont quand même réécrit le texte. Et en fait, ils ont réécrit le texte, mais ils ont quand même crédité le.
Oui.
C'est ça.
Ouais.
Et en fait, je pense que ça parle. Enfin, c'est pas moi qui pense. J'ai lu que ça évoque un peu le parcours du frère aîné, je crois, d'Edwin Arlington Robinson, qui était. Mais ces deux frères ont un peu eu un destin un peu similaire. C'est des gens qui étaient issus de cette famille un peu bourgeoise, disons, et qui ont eu des vies. L'un était médecin, l'autre a repris l'industrie familiale du bois, quoi. Et en fait, celui qui était médecin, donc ils étaient tous les deux très beaux en plus, ces frères, ouais. Pour couronner le tout un peu. Et donc, celui qui a repris l'industrie familiale et qui a aussi épousé Emma Shepherd. Donc lui, il est avec la crise des années 1890, il s'est retrouvé petit à petit ruiné, puis il a sombré un peu dans l'alcoolisme et tout ça. Et il a fini un peu dans la misère. Emma Shepherd l'a quitté. Et il s'est retrouvé tout seul, malade, bref, dans la misère un peu. Et l'autre frère, celui qui était médecin, en fait, c'est pareil, c'est une personne un peu comme le personnage du texte Richard Corey, qui a été mis en musique dans la chanson. C'est un personnage à qui tout réussit et dont on a l'impression que rien ne peut l'atteindre. Quelqu'un qui, je ne sais plus comment il le formule dans le texte en français, je ne vais pas le traduire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une démarche assurée, quelqu'un qu'on admire un peu, quoi, un notable, entre guillemets.
Ouais,
Et en fait, frère a développé une addiction à la morphine, en fait. Et du coup, c'est pareil, il a subi une déchéance rapide. Il est décédé d'une overdose de morphine. Ouais.
Voilà.
Prématurément.
Bien. Bah, vu que l'heure tourne, on va rapidement annoncer les concerts de la semaine.
Okay.
On va écouter un morceau, puis on continuera de parler. Et puis tu nous joueras quelques morceaux de ton nouvel album, l'album de Vesperland, Exit. Rapidement les concerts de la semaine.
Oui.
Ah, parce que comme tu connais tout le monde, toi en plus, par rapport à nous.
Oh, je connais certains là dans le.
Bah oui, je vois sur la feuille. Pour ça. Allez, je commence le premier. Moi, le vendredi 10 février, au Toy Toy à Villeurbanne, Gontard et The Shoshols. Ouais, à peu près. Vas-y, bah, tu peux annoncer le suivant. Ouais, vas-y.
Alors, à la tannerie à Bourg-en-Bresse, YK Release Party. Donc, c'est une sortie d'album, j'imagine, c'est ça.
De EP, oui, d'un rappeur qui vient de Yona.
D'accord.
À la vache rouge à Vénissieux, Manu Lanvin and the Devil Blues.
Le samedi 11 février, au théâtre Instant T à Lyon, Antiquarks. C'est vieux, ça.
C'était un duo avec de la vielle à roue et de la batterie, musique assez innovante.
Ouais,
univers très, très personnel, oui.
Ouais, ouais.
J'ai un tout petit peu croisé le batteur.
D'accord.
Je crois que c'est Richard Monségu, si je ne me trompe pas. Et je crois même lui avoir acheté une batterie il y a quelques années, pour l'anecdote. Et ils sont assez, je crois qu'ils ont un groupe qui sont assez, comment dire, ils travaillent beaucoup et ils innovent pas mal. Et je crois qu'ils produisent une chose assez neuve et... avec des musiciens et tout ça. J'ai vu se passer ça, mais je peux pas en parler mieux, disons, parce que j'ai pas écouté.
Ouais. Tiens, le prochain, tu peux l'annoncer, tu connais peut-être mieux que nous.
Alors,
Toi, tu l'as peut-être subi par rapport à...
Oui, je l'ai subi, c'est ça. C'est,
ouais, c'est pour ça, voilà.
Bernard Minet, Metal Band.
Ouais.
Alors, c'est Bernard Minet, hein, ouais, oui. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Ouais. Et apparemment, il s'est mis à faire du métal.
Oui, voilà, c'est drôle, donc on peut y aller, c'est drôle. Là.
Alors, en même temps, j'imagine, le pauvre, ça doit être difficile pour lui de... Enfin, le pauvre, on va pas le plaindre.
De mais... faire autre chose, ouais.
C'est pas évident de... C'est ça, de faire quoi que ce soit de différent de ce qu'il faisait avant, c'est ça.
Ben oui, c'est au Rock and Eat à Lyon. Hein. Continuons, allez, allons-y.
Au Toy Toy à Villeurbanne, oui. Gontard, Off Models et The Socials.
Ils ont deux jours d'affilée au Toy Toy, c'est
ouais,
ça
ouais. Ouais. À l'Agenda à Lyon, Pascal Marie, que l'on retrouvera le dimanche 12 février. À l'Agenda à Lyon, bien sûr, toujours.
Ensuite, mardi 14 février 2023, à l'Arcadium à Annecy, The Australian Pink Floyd Show.
Voilà. Bah tiens, un quelqu'un qu'on connaît.
Oui.
Tonio, vas-y.
Ah bah, c'est au Périscope à Lyon, le mercredi 15 février. Ouais, ouais. Il y aura Cassidy et Raoul Vignal.
Ah, je crois que je vais essayer d'y aller.
Voilà, Raoul Vignal qui était venu, il accompagnait à l'époque Sly Apollinaire.
Ah, c'est vrai, ouais.
Voilà, mais c'est vieux. Hein.
C'est super ce qu'il fait, Raoul, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est très très beau, c'est un des chanteurs hyper talentueux.
Ouais, c'est dommage qu'ils soient partis à Paris. Ouais. On aurait bien invité à la radio.
En tout cas, moi j'aime beaucoup son travail. Et vraiment, c'est quelqu'un...
Ah bah oui, ça doit plaire ce qu'il fait, ouais, c'est sûr.
Ouais.
Alors, au marché Gare à Lyon, Doppler et puis L'Effondrasse le jeudi 16 février.
Alors, je me demande si Raoul Vignal ne joue pas de la basse dans L'Effondrasse.
Oui, aussi. Oui, oui, t'as raison. Oui, 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 j'allais
le faire. De post-rock un peu, c'est un peu.
Oui, oui, tout à fait. Avec l'artiste de la semaine, là, faut le faire des fois.
Ouais.
On innove. Et ben, termine. Bah, vas-y, bah,
vas-y fini.
Allez, termine. Oui, oui. Allez, vas-y, termine.
Pour le dernier.
Allez.
Alors, Cité Internationale, salle 3000 à Lyon, The Australian Pink Floyd Show.
Voilà. Allez, puis on s'écouter un dernier morceau. Alors, j'ai le choix entre Tact et puis The House on the Hill. Tu comptais le jouer avec ta guitare dernier?
Non, tu peux, non celui non. que tu veux.
Aucun des deux.
Aucun des deux, ouais.
Ok, bah, The House on the Hill, c'est bien aussi, hein ouais. Non
bon, mais ils sont tous bien.
Mais ils sont tous bien, c'est
pas
ça.
Ah, bah attends.
Tonio.
Bah. Ah, bah, on va écouter The House on the Hill, un extrait de l'album Exit, par Vesperland.
Thank you.
The House on the Hill, un nouvel extrait de l'album Exit par Vesperland.
Eh bien, je crois qu'il va être l'heure de se quitter pour cette première heure. Messieurs, Mickaël Cointepa, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B, d'Autarmus des Prétentieux.
Avec plaisir, merci à vous.
Rappelons la sortie le 3 mai 2022, du quatrième album de ton projet Vesperland, Exit. On peut se procurer où, quand et comment, sans oublier les quatre autres sorties précédemment.
Alors, ce que je peux dire, c'est que tous les albums sont écoutables sur le Bandcamp de Vesperland. Voilà. Et sur le site web vesperland.com, on peut trouver les textes que j'ai mis en musique.
C'est vrai.
Dans un onglet qui s'appelle Lyrics. Voilà. Et après, on peut me contacter en passant par il y a un formulaire de contact sur le site web. Ou alors par les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook de Vesperland sur laquelle on peut envoyer un message. Privé, pareil, il y a un Instagram aussi pour les plus jeunes d'entre nous.
Voilà, le site internet www.vesperland.com, très complet, puisqu'on y annonce même ta venue, même si c'est dans les concerts passés. Mais ce sera chose faite ce soir, donc tu regarderas.
Ah, peut-être j'ai fait une erreur de mise en page.
C'est pas grave.
Ça m'arrive parfois.
C'est pas grave. Alors, on te retrouve dans quelques minutes sur les 90.0 pour Terminus la suite, avec quelques chansons en direct avec ta guitare. On te retrouve sur scène dans la région prochainement avec Vesperland.
Oui, le 28 février, ce sera à la MJC du Vieux-Lyon. Et ce sera un concert qui est dans un dispositif qui s'appelle Avant-Scène. Et donc la particularité, c'est que c'est à 12h30. Voilà, donc c'est entre midi et 2 à la MJC du Vieux-Lyon, voilà, pour les gens qui travaillent dans le quartier.
D'accord.
N'hésitez pas à venir nombreux.
Bah oui. Tonio, bonsoir.
Bonsoir Michel.
La semaine prochaine, nous accueillerons dans les studios le chanteur lyonnais Nicolas Tarik.
Ah, Nicolas Tarik, oui. J'étais à sa sortie d'album.
Voilà, il nous présentera justement son album Gibraltar, sorti le 24 novembre 2022. Comme tu le dis si bien, Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur le 90.0
de Radio B.
Ben Mickaël, bonne continuation, bonne collaboration.
Merci.
Bon concert. À bientôt. Et à tout de suite sur Radio B.
À tout de suite.